Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pexe, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à Cour d'honneur, saison 5, épisode 2. On se retrouve juste vous et moi encore une fois et je suis bien sûr très bien entourée pour discuter de la tempête émotionnelle républicaine, au mauvais temps d'automne en passant par la semaine de la mode et du mois rose. On se pose toujours cette même question, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne? Et on y répond toujours sur Radio Sorbonne Université, votre magazine préféré d'infos et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus. C'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris. Pendant une heure, je vous promets de parler de mode.
La Fashion Week.
Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non ? Nous on bosse nous.
De politique.
La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, vous voyez cette porte.
De féminisme.
On parle des inégalités hommes-femmes.
Where is my family from?
Ah ouais.
Non.
On parle des inégalités hommes-femmes.
Sorry, yeah.
Inégalité.
Voici mes promesses avec la meilleure des équipes pour vous servir. Bonsoir Ellie.
Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que nos auditeurs et auditrices vont bien. Et moi ce soir, je t'ai préparé un petit édito sur la Fashion Week qui vient de se dérouler et une chronique pavée sur la conférence de Monsieur Dior à la Sorbonne.
J'ai très hâte d'écouter tout cela. On a aussi Lavinia ce soir, hello.
Hello Swan. Alors ce soir, je vous ai préparé un micro-totoir où je demande aux étudiants quel est le prochain plan d'action à suivre après la démission de Sébastien Lecornu. Voilà.
Ça annonce un débat enflammé. On a Jade également ce soir.
Et oui, alors nous aujourd'hui, ça va être un petit peu de prévention avec mon invitée Catherine Tourette-Turgis. Et on va essayer de vous donner des conseils et pas mal de petites choses pour appréhender une maladie très grave.
On a hâte de l'interview. Hello Elias.
Salut à toutes et à tous, bonsoir. Moi aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique débrouille sur l'arrivée de l'automne, comment occuper ses soirées quand les soirées durent de plus en plus longtemps.
Et oui, sujet qui là commence à se faire bien entendre l'automne. Sans oublier le grand Thomas Pesquet. Thomas Hugh. Et non, j'arrive à court de Thomas. Et oui, je me suis approprié la blague de Chérine. C'est encore le fameux et célèbre Thomas Schnell.
Et elle nous manque, Chérine. On pense fort à elle ce soir. Bonsoir à tous.
Alors faites comme chez vous, chers auditeurs. Installez-vous et prenez place du haut de l'amphi dans votre chambre de bonne aux toilettes sur le palier. Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Attention, sortez vos plus belles pièces parce qu'aujourd'hui, on parle de mode. Cette grande scène où l'on rejoue chaque saison le théâtre de nos envies, des podiums au trottoir, tout est une question d'altitude. Ce soir, Ellie nous parle de la dernière Fashion Week.
En ces temps d'incertitude et d'anxiété politique, je vous propose ce soir une rétrospective, pour être plus précise, une fashion rétrospective sur cette dernière semaine de Fashion Week qui vient de se dérouler. On a su tout de suite que cette édition allait compter, qu'elle serait historique. Dès les premiers pas sur le podium, certaines maisons avaient mis les petits plats dans les grands. Des mises en scène spectaculaires, des décors réfléchis, non pas seulement des lumières, mais un décor qui parlait, qui racontait, comme ce podium Saint-Laurent couvert de milliers d'hortensias, formant les lettres YSL dans un air de printemps passé. Parallèlement, des retours attendus et des débuts prometteurs avaient déjà attisé toute la curiosité de la fashion sphère. De jeunes directeurs artistiques prenaient la tête de maisons classiques, apportant leur souffle neuf, tout en jonglant avec l'héritage, comme Mathieu Blazy qui a donné un nouveau souffle de modernité chez Chanel. Au creux de la Fashion Week, le plaisir était dans l'excès, mais aussi dans les contrastes. On a vu la mode comme on aime la voir, c'est-à-dire un peu outrancière, beaucoup théâtrale. Certains défilés ont joué avec les références historiques, la Renaissance, le XVIIIe siècle, le roman gothique, et les ont remixés à leur sauce un peu plus modernes. D'autres ont proposé des coupes quasi architecturales, des matières inattendues et des jeux de transparence. Et puis l'engagement, ce n'est plus juste esthétique. Certaines collections glissaient des clins d'œil aux urgences contemporaines. Inclusion, normes de beauté critiquées, conscience écologique. On n'a pas seulement vu des tissus, mais des prises de position. Au moment où tous les yeux étaient rivés vers les grandes maisons, quelque chose se sont hissés au-delà de la simple démonstration. Vagarello pour Saint-Laurent, encore une fois, a frappé fort avec un décor monumental combiné à des silhouettes audacieuses. Dior aussi, avec le premier défilé femme de Jonathan Anderson, qui a ménagé un spectacle raffiné, mêlant références littéraires, influences anciennes et modernité. Une sorte de dialogue entre passé et présent, riche et subtil. Courrèges sous les silhouettes de Nicolas Di Felice, a offert un moment de minimalisme futuriste, les corps sculptés dans des lignes nettes, des silhouettes épurées, des accessoires qui évoquent la protection, voire l'armure, le tout dans une ambiance presque science-fictionnelle. Enfin, la Fashion Week ressemblait à un grand crescendo, la foule lasse, les make-up défiant l'endurance, mais aussi cette euphorie de voir, pour quelques instants, la mode comme une fête totale de celle qui dérange autant qu'elle émerveille.
Merci Ellie pour cet édito haut en couleur, haut en mode. On aurait presque envie d'aller au défilé, mais ils sont terminés malheureusement. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, il est 20h06 et 18h06 sur Radio Campus Paris. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
5, c'est le nombre de gouvernements successifs auxquels on a eu droit depuis 2022, début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Avec le temps record de Sébastien Lecornu, le CDD le plus court de la 5e République, on peut légitimement s'interroger sur le prochain tournant politique. Et du côté de la jeune génération, nos chers étudiants de la Sorbonne, ont-ils encore l'espoir que tout s'arrange avec l'arrivée d'un 6e Premier ministre ?
Ma plus grande préoccupation, c'est plutôt l'image que ça donne de nous à l'international, dans les médias, etc., de voir que notre gouvernement, il tient pas. Et puis, on a toujours clairement juste pas de budget, en fait, donc ça va pas du tout. Je suis pas sûre que vraiment élire un nouveau ministre, ça va changer grand-chose. Enfin, je vois pas qui. Là, par exemple, l'extrême droite, elle monte beaucoup dans les sondages, donc il y en a plusieurs qui disent, par exemple, Jordan Bardella, Premier ministre, mais c'est impossible. Donc moi, je pense que ça va se finir en élection présidentielle anticipée. Donc, par exemple, qui va annoncer sa démission, mais que quand même, on va avoir 6 mois pour un peu préparer les nouvelles élections avec les nouveaux candidats, etc. Je pense que ce serait le choix le plus raisonné.
Un président qui respecte la légalité, certes, des processus démocratiques, mais qui n'en respecte pas l'esprit. C'est vraiment une impasse institutionnelle pour le moment. Légalement, il peut très bien multiplier les premiers ministres, mais je ne pense pas qu'il y ait une issue si on continue de cette manière-là.
Moi, la décision d'émission de Lecornu m'a fait beaucoup rire parce que je ne croyais pas à la politique de base. Macron avait pris une personne de son parti. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne aux urnes pour demander l'avis aux Français.
Globalement, si on décide de continuer, sans passer par une dissolution ou par une démission, globalement, ça risque de refaire à peu près la même chose. Après, il y a des options possibles, mais franchement, je ne suis pas sûr que tant qu'on n'aura pas une autre dynamique politique à l'Assemblée, je ne pense pas que ce soit possible d'arriver à quelque chose de constructif, quoi.
C'est sûr qu'il y a une instabilité politique dans le pays. Chaque ministre veut conformer son équipe et c'est pas forcément ni la gauche, ni la droite, ni les gouvernements, ni toute la population qui aime bien l'équipe de ce Premier ministre. Donc je pense que c'est ça qui bloque. Et en plus, je pense que le principal problème, c'est la polarisation. Et oui, je pense que les Français doivent avoir espoir pour reconstruire la confiance, la stabilité du pays. Donc je pense qu'il faut y croire.
Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ? Est-ce qu'au contraire, vous avez des choses à révolter, à évoquer ? Quels sont vos avis ?
En fait, déjà, je vais commencer par donner l'esprit avec lequel j'ai fait ce micro-trottoir. C'est notre génération, enfin pas moi parce que moi je suis pas française, je vais peut-être être naturalisée avant 2027, mais vous allez être la génération primo-votante en 2027 pour les nouvelles élections, ou même avant. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'instabilité politique, comme a dit le dernier intervenant. Est-ce que vous avez un sentiment d'impuissance par rapport aux enchaînements de premiers ministres qu'on a en ce moment depuis les élections législatives en 2024, voilà.
J'ai l'impression que, en fait, il y a des nouveaux premiers ministres, assez souvent, malheureusement, mais que le gouvernement qu'ils forment est composé toujours des mêmes personnes. Donc je pense notamment à Elisabeth Borne qu'on a vu relativement tous les ministères, à Gérald Darmanin qu'on a aussi pas mal vu et plein d'autres. Mais je pense que si on change le Premier ministre mais qu'on ne change pas le gouvernement, ça ne va pas changer. On va rentrer dans une routine de toujours un nouveau Premier ministre mais toujours les mêmes qui posent problème. Donc que ce soit à l'Assemblée nationale ou même au sein du gouvernement, les décisions sont toujours les mêmes parce qu'on prend toujours les mêmes décisions. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme un cercle vicieux où, pour sortir, il faut quelque chose de plus radical, une vraie décision qui fasse changer les choses et pas essayer de recycler des gens à différents postes.
Moi, surtout, ce qui m'énerve, c'est que c'est surtout depuis les législatives, c'est qu'on nous a fait un peu voter pour rien. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Macron a dissous l'Assemblée nationale, il y a eu des législatives, le NFP a gagné, mais pourtant, il est arrivé en tête. Mais pourtant, ça a toujours été des ministres du camp de Macron ou un peu qui sortaient de la gauche ou de la droite, mais c'était jamais de représentatif des votes qu'il y avait eu dans les urnes. Et je trouve ça hyper frustrant de voter, mais au final, c'était comme si on te disait non, en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ton vote un peu servait à rien. Et alors, évidemment, ça sert à quelque chose de voter, mais du coup, genre, on a ce truc de. Ça sert à rien de voter au final. Enfin bref, voilà.
Oui, c'est clair. Et puis même au-delà de ça, je trouve qu'on a du mal du coup à s'identifier à notre gouvernement en fait, parce qu'il change beaucoup. On voit des nouvelles têtes, des nouveaux prénoms aussi parfois, et on a du mal à se dire celui-ci, il va me retenir l'attention. Tiens, celui-ci, il me plaît pas mal. En fait, on a vraiment du mal à se faire une idée de qui nous gouverne, qui est au-dessus, parce que ça change beaucoup et du coup. On ne sait pas toujours quelle position adopter et à qui s'identifier, pour qui on vote et qui fait changer les choses réellement en fait.
Moi personnellement, je pense qu'une dissolution n'amènerait à rien de nouveau. Enfin, ça serait un peu rebelote, ça serait déjà le même scénario qu'en 2024.
Oui, sauf que c'est rebelote depuis.
Ouais. Mais du coup, en fait, c'est quoi le scénario qui nous reste ? Certains évoquent la démission de Macron.
Elle a été refusée par le. Marine Le Pen s'est opposée aujourd'hui, justement.
Elle a dit qu'elle va tout censurer, Marine Le Pen. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle fait encore en politique.
On voit que quand même la droite a le plus le pouvoir, quand même.
Mais elle a été condamnée à l'inéligibilité il y a quelques mois déjà. Ouais. Mais pourtant, elle est quand même très investie. Ouais. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Macron, il s'est prononcé là-dessus. Il a dit qu'il prendra toutes ses responsabilités. C'est moi, lui. Mais c'est très vague, encore une fois. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est nommer un nouveau Premier ministre qui ait d'autres orientations que les macronistes. Est-ce que c'est, est-ce que c'est démissionner ? Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est très vague.
J'ai l'impression que si on en vient à la démission d'Emmanuel Macron, ça veut dire donc qu'il y a de nouvelles élections et le plus probable de ce que j'ai vu, entendu, ça serait soit l'extrême droite, ce qui sincèrement me fait très peur, soit des personnes du camp de Macron à la base, comme Gabriel Attal ou Édouard Philippe par exemple. J'ai l'impression que, en fait, je sais pas comment on peut régler le problème, parce que si jamais dissoudre l'Assemblée nationale, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que ça a déjà été fait et qu'on en est toujours au même point. Et que si Emmanuel Macron démissionne, on va avoir soit ses potes, soit l'extrême droite.
Et on rappelle que là, surtout, il a 4 choix de décision à prendre. Soit il démissionne et donc il y a une élection anticipée, soit il va mettre au pouvoir un Premier ministre de gauche, ce qu'il refuse à faire. Soit il va dissoudre l'Assemblée, soit il va devoir. On se moque pas de moi, je suis dyslexique. Soit justement, et donc il fait cette élection anticipée. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire en sachant qu'il s'oppose complètement à élire un Premier ministre de gauche, sauf que là, les 3 derniers étaient de droite et ça a été assez futile. Donc,
honnêtement. Il est à la fois très culotté et imprévisible, donc je ne sais pas trop quoi dire. Mais en vrai, le plus probable, mais je ne sais même pas si on peut parler de probabilité, parce qu'en soi, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai le feeling qu'il y aura peut-être une élection anticipée.
Après, peut-être que c'est aussi un scénario qui est préférable aux élections 2027, parce que Elias avait rappelé le fait que c'est possible qu'on ait l'extrême droite, du coup, qui monte dans les possibilités d'élection. Mais le problème, c'est que si on garde ces situations-là, est-ce que ça ne serait pas encore plus aggravé en 2027 et du coup, on aurait des polarisations encore plus fortes? Est-ce que si maintenant on se précipite en faisant des élections anticipées, est-ce qu'on ne prévient pas peut-être une sorte d'augmentation de la popularité de l'extrême droite?
Bah, c'est quitte au double. Soit ça se passe comme ça, soit ils arrivent au pouvoir et on se rend compte de leur nullité. Et là, du coup, ça prend un peu le contre-pied. Mais le truc, c'est que s'ils sont au pouvoir, ils sont au pouvoir.
Et s'ils sont au pouvoir, c'est pour 5 ans au minimum.
Oui, c'est ça.
Et ça veut dire que pendant ces 5 ans, il va falloir faire avec président d'extrême droite, certainement un premier ministre d'extrême droite aussi, avec un gouvernement d'extrême droite aussi, et j'ai peur de ce que ça peut donner. Et déjà, déjà là, maintenant, sans l'extrême droite, c'est un peu le bazar. Alors, je pense qu'avec l'extrême droite, on va vers quelque chose de vraiment incontrôlable. Et c'est pas ça que j'ai envie pour mon pays.
Ah, moi non plus, je dis pas ça. Je dis juste que c'est quitte au double.
Ah oui, enfin, oui, ça c'est sûr.
C'est la peste ou le choléra, quoi.
C'est ça.
La peste ou le cholestérol.
Mais de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, on a l'impression de pas trop avoir la main là-dessus, donc on lâche ça, mais...
Mais c'est ça, je trouve qu'au final, ça rejoint beaucoup ce qu'avait dit Ellie sur le fait que si à chaque fois, qu'importe les votes, en fait, le gouvernement se fait de lui-même et finalement se brise de lui-même, on n'a absolument pas la main dessus et c'est un peu décevant de la part de notre président.
Est-ce que vous avez
autre chose à ajouter? Est-ce que mesdames, vous voulez participer? Non. avec un nouveau single, je passe vraiment du coq à l'âne, avec un nouveau single sorti il y a une semaine et demie, Tame Impala réaffirme sa place parmi les plus grands artistes du 21e siècle. Et pour cela, il touche la Gen Z en castant un acteur bien aimé dans leur clip maintenant incontournable. Tout de suite, Loser sur Cour d'honneur. Sur Cour d'honneur, vous venez d'écouter Loser de Tame Impala. Leur prochain album sort dans 9 jours, en plein milieu du mois d'octobre. Et qui dit octobre rose. Nous allons dans un instant accueillir notre invitée Maria Mendes, qui est chargée du développement des projets culturels de la Sorbonne auprès de la Chancellerie de Paris. Mais tout d'abord, qui de mieux pour parler de ce mois dédié à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein, qui est un sujet d'ailleurs qui nous concerne toutes et tous, directement ou indirectement. Qui de mieux pour en parler que l'invité de Jade, une invitée d'honneur à la Cour d'honneur.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonjour Catherine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeure à Sorbonne Université, chercheuse et fondatrice de l'Université des Patients, un projet qui valorise l'expérience des personnes malades et les accompagne dans leur parcours, notamment après un cancer. Comme vous l'avez écrit précédemment, le cancer du sein touche une femme sur 10, dont la moitié en âge de travailler, et donc 44% des femmes estiment que leur maladie a un impact important sur leur carrière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du cancer du sein sur la vie professionnelle, de l'accompagnement possible pour les patientes et de vos projets autour de l'éducation thérapeutique et du bilan de compétences. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment est née l'Université des Patients et ce qui vous a donné envie de créer ce projet unique ?
Oui, bonjour. L'Université des Patients est née, enfin pour moi, de nos implications. Hein. J'étais pas seule, même si c'est moi qui ai eu l'idée de l'Université des Patients et qui l'ai implantée à Sorbonne, de la lutte contre le sida. C'est-à-dire que c'était inadmissible qu'en 1996, avec l'arrivée des trithérapies, tout d'un coup, des personnes qui avaient milité, qui avaient tenu la santé publique, qui avaient conseillé l'État, se retrouvent avec « je suis guérie ». Qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire, on les avait enterrés socialement, professionnellement. Et donc, c'est en voyant cela, je me suis dit, mais il y a un concept là qui nous manque. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais quand tu es guéri ? C'est-à-dire, le concept de rétablissement qui n'est absolument pas pensé dans les politiques publiques. Enfin, il n'y a jamais rien de prévu, de toute façon, pour les gens qui se rétablissent. Et donc, j'ai créé l'Université des Patients en disant, il y aura au moins un lieu où moi, je m'occuperai de valoriser les acquis expérientiels de cette lutte, puisque moi-même, je faisais partie de la lutte. Donc, c'était mes frères, mes sœurs. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est une idée qui vient d'une lutte.
D'accord. Et c'est vrai que, du coup, au niveau des questions du rétablissement, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les femmes après un cancer du sein et comment votre programme, à travers l'Université des Patients et vos recherches à Sorbonne Université, les prend-il en compte ?
Alors, c'est vrai que à San Francisco, j'ai une amie qui décédait du cancer dans les années 84 et qui m'avait dit « Promets-moi un jour que tu t'occuperas du cancer après le VIH-SIDA dont son frère était affecté ». Et donc, après les luttes contre le VIH-SIDA, j'ai décidé de m'engager en oncologie, dans le cancer. Et donc, là, très très rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait encore un trou dans la raquette, c'est-à-dire que tu te fais 11 mois d'absence au travail, tu luttes avec quand même des traitements un peu puissants, tellement puissants qu'ils t'endommagent le corps, tu te retrouves après, et là, on te dit, alors en plus, si t'es une femme, ça n'arrange pas les choses, eh bien en fait, on te met au placard, on te dit, pensez d'abord à votre santé, est-ce que c'est vraiment important, est-ce que vous faites, etc. Enfin, c'est vraiment une hécatombe. Ce qui m'a engagée, moi, c'est une femme qui arrive dans le DU, donc d'oncologie que j'avais montée, et qui dit j'ai perdu un sein. Bon, pas bien facile, mais je peux peut-être m'en remettre. J'ai perdu mon travail, pas bien facile non plus, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Et j'ai perdu aussi mon compagnon comme conséquence des deux autres. Je me suis dit, oh là là, ça ne va pas ça. Et donc moi, étant militante engagée depuis l'âge de 8 ans, 8 ans en vie, comme on dit, depuis très très longtemps, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à mettre en place des cafés du rétablissement, après je suis allée dans les entreprises, j'ai dit, ça suffit là, on a besoin de partager le fardeau, on ne va quand même pas se battre, parce que je suis dans les consultations d'oncologie, pour des traitements, avec peut-être d'ailleurs des choses comme il n'y en aura pas pour tout le monde, et en plus qu'il n'y ait pas le dernier kilomètre, qui est qu'une personne puisse être réinstituée immédiatement dans ses droits à l'orientation professionnelle, à un avenir professionnel. Donc il y a un travail monstrueux à faire. Enfin, vu votre âge, vous avez peut-être des mamans ou des grands-mères qui ont eu un cancer, voire même on a aussi des jeunes qui ont un cancer, des jeunes de 25 ans, 26 ans. Pareil, on arrive à les mettre en rémission, les stabiliser, voire les guérir. Et pareil, s'ils sont en CDD, on ne les reprend pas dans l'entreprise ou là où ils travaillaient. Et s'ils sont en CDI, on se débrouille aussi. Enfin, voilà, moi je me bats contre les pertes de chance sociales des malades que la médecine guérit. Donc toute maladie confondue d'ailleurs.
En parlant d'entreprise, d'ailleurs, vous avez gagné il y a de cela 2 ans, le 18 octobre 2023, un prix Ruban Rose pour votre projet de bilan de compétences au sein des entreprises, qui sensibilise aujourd'hui encore au cancer féminin. Pouvez-vous nous expliquer concrètement les objectifs et le fonctionnement de ce projet que vous avez monté?
Oui, tout à fait. Donc après l'Université des patients, où donc, nous diplômons des personnes pour devenir patients partenaires en rétablissement, et on se débrouille pour qu'elles trouvent du travail, soit dans des centres d'oncologie, soit qu'elles aient des fonctions, comme monter des antennes cancer et travail dans leur entreprise, je me suis dit, et si on faisait un bilan de compétences à destination des personnes qui ont eu un cancer. Donc c'est là-dessus que j'ai gagné le prix Ruban Rose. Alors un bilan de compétences, on est en train de finir l'expérimentation, c'est un bilan de compétences qui, par rapport à un bilan de compétences classique, là, va être un bilan de compétences sensible. C'est-à-dire, ça va être un bilan de compétences adapté à des personnes qui ont eu un cancer, où elles vont pouvoir faire le point entre le métier qu'elles avaient avant et puis donc ce passage maladie, où on va identifier les acquis expérientiels, c'est-à-dire il faut arrêter que le cancer, ça soit un trou dans un CV. Le cancer, pendant la période maladie, on acquiert des apprentissages existentiels, etc. On ne fait pas rien, ça suffit cette idée que les malades font rien, qui coûte cher, etc. On n'en peut plus, c'est faux. Et donc on va donc les aider à faire le point entre les compétences d'avant, les compétences acquises pendant cette période assez douloureuse et ce qu'elles ont envie de faire. Donc il fallait mettre en place des outils sur la stigmatisation, comment je me présente à nouveau, les séquelles, qu'est-ce que j'en fais, un espace en fait de remobilisation. Et je suis en train effectivement de terminer ce projet qui, d'après ce que j'ai entendu, gagnera un autre prix jeudi prochain.
On a hâte. Avez-vous un retour un peu marquant, peut-être d'une patiente en particulier, sans citer son prénom bien sûr, mais un retour peut-être marquant qui pourrait nous parler un peu plus, un exemple qui pourrait parler aux étudiants d'une malade qui, après avoir suivi votre programme, justement, en est sortie plus forte?
Oui, bien sûr. J'aurais pu les amener avec moi, surtout, ici, ce soir. Donc, quelqu'un qui dit... Eh bien, finalement, de venir réétudier, ça a été un espace protecteur pour moi. Mais elle étudie à l'Université des patients. Si vous venez voir nos locaux, vous verrez que ce n'est pas comme un amphi. C'est des chaises, il y a une cuisine, on peut aller se reposer. Donc, c'est vraiment prévu, un espace de bienveillance. Ce n'est pas des enseignements au kilomètre avec des diaporamas, c'est des groupes de parole, d'autres qui viennent enseigner, etc. Et donc, qui a dit, je vous remercie, mon estime de moi, c'est mieux. Et surtout, vous m'avez permis de me rétablir, parce qu'on peut être guéri sans être rétabli. Le rétablissement, c'est toutes les dimensions autour.
Dernière question, vous parliez de San Francisco tout à l'heure. Est-ce que vos engagements donc, dans de nombreuses luttes, comme vous l'avez cité auparavant, notamment contre le sida et le VIH, vous ont amené à voyager, voire à quitter le pays pendant plusieurs années? Quels impacts cette expérience a-t-elle eu sur votre vision et sur l'accompagnement des patients?
Oui, je me suis exilée effectivement pendant 10 ans, jusqu'à la carte verte, etc. Je ne sais pas si je l'aurais eu dans la période actuelle. Pour moi, ça a été extrêmement important de... Oui, bien sûr, comme vous, j'imagine, quand vous allez étudier à l'étranger. C'est-à-dire, du coup, tu regardes ton pays avec beaucoup de distance, tu fais des comparaisons. J'ai beaucoup appris. En plus, j'ai eu la chance d'être enseignante à Berkeley, Santa Cruz, San Francisco, de vivre à San Francisco, mais pas le San Francisco actuel qui est devenu inabordable, etc., parce que c'est la Silicon Valley qui est remontée là-haut. Non, le San Francisco qui était encore le San Francisco de Janis Joplin, enfin qui était encore le San Francisco de l'expérimentation sociale, du laboratoire social en permanence. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est petit la France, on doit pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ça m'a aidée, je crois, à avoir la force, parce que je m'étais en plus battue pour avoir une carte verte, etc., un énorme pays. Là, je me suis dit, j'ai plus peur.
Le monstre, les États-Unis. Eh bien, merci. Dernière petite question, la question dont personne échappe. Que représente Sorbonne Université pour vous?
Alors, moi, j'aime beaucoup Sorbonne Université parce que j'y ai une place à part. J'ai inventé l'université des patients. Et donc, on est complètement à part puisque c'est une université qui ne reçoit que des malades. Donc, 75 malades par an, des masterclass. Donc, une centaine de malades par an dans un bâtiment hospitalier. C'est une expérimentation nationale. D'ailleurs, on est en cours d'implantation dans d'autres pays. Donc moi, j'ai vraiment un petit havre de paix dans Sorbonne, parce qu'étant une expérimentation, globalement, je pourrais dire que je fais ce que je veux.
Bien, merci beaucoup Catherine pour votre témoignage et vos conseils. Votre travail à Sorbonne Université et à l'Université des Patients a montré à quel point l'éducation thérapeutique et la prévention ont eu un impact concret sur la vie des patientes. Et nous savons que vous avez certainement aidé de nombreux jeunes à mieux comprendre ces enjeux. Nous avons été ravis de vous recevoir aujourd'hui dans Cours d'honneur et nous espérons vous revoir très vite à RSU. Encore merci d'avoir partagé votre expérience avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, mesdames, pour ce témoignage touchant et cette interview vraiment passionnant. Bien sûr que j'allais vous faire écouter les nouveautés de la rentrée et qui dit nouveau son dit bien sûr Raillé. Elle a pu chanter son single quelques mois avant sa sortie, histoire de la tester en concert avant de la lancer sur plateforme. Tout de suite, Where is my husband? Sur Cours d'honneur. Il est 20h35 sur Cours d'honneur et 18h35 sur Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter Where is my husband, Raillé. Elle sort définitivement classique sur classics et on s'en délecte. En parlant de classique, parlons de la Sorbonne. Nous accueillons Maria Mendes. Bonsoir. Vous êtes donc, comme je l'ai dit...
Oui, oui, un petit instant, voulez-vous voir
A ? Il faut trouver la voie.
Vous êtes donc, excusez-moi, comme je l'ai dit plus tôt, chargée du développement des projets culturels en Sorbonne auprès de la Chancellerie de Paris. Pour commencer, il y a une silhouette reconnaissable entre mille à la Sorbonne, un édifice qui projette son ombre sur la cour d'honneur depuis des siècles, la chapelle. Et j'ai récemment observé peu de mouvements à l'entrée de la chapelle. Pourrons-nous bientôt y entrer ?
Alors, je fais une toute petite correction. C'est la chancellerie des universités de Paris et non pas la chancellerie de Paris.
D'accord.
Et qu'est-ce que c'est que cette chose, la chancellerie des universités de Paris ? C'est un établissement qui est en charge de l'administration du bâtiment Sorbonne. Voilà, juste cette petite chose. Par rapport à la chapelle, il y a actuellement un projet de restauration qui est en cours, hein, qui a déjà commencé. Hein, plusieurs éléments de la chapelle ont déjà commencé à être restaurés, comme le tombeau du cardinal de Richelieu, ou tout récemment, les grandes portes qui ouvrent sur la place de la Sorbonne ont été restaurées, ce qui a permis, à l'occasion des Journées du patrimoine tout récemment, leur ouverture. Et à la fin du parcours des Journées du patrimoine, le public a pu sortir par la grande porte de la chapelle, ce qui était un moment assez exceptionnel. Et donc d'autres travaux de restauration sont prévus. Donc normalement encore en 2025 on devrait avoir la restauration des peintures murales de la chapelle. Et voilà, et d'autres restaurations sont prévues ou vont être prévues. C'est un chantier long qui est menée par la ville de Paris, puisque la chapelle appartient à la ville de Paris, comme l'ensemble des bâtiments de la Sorbonne. Et ce projet de restauration, il doit s'accompagner d'un projet culturel qui doit être défini. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment mené par la ville de Paris, hein, puisqu'ils sont propriétaires du bâtiment. Voilà, donc la réponse à votre question, je ne l'ai pas. Hein. Donc, quand pourra-t-on ouvrir la chapelle aux étudiants ? Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui.
Mais c'est donc à cause de cette restauration-là qu'on ne peut pas y entrer. C'est pour ça qu'elle est fermée.
Alors c'est pas parce qu'elle est. Alors non, parce qu'en fait, en réalité, elle est fermée depuis une vingtaine d'années parce que suite à des dégâts provoqués par la tempête de 1999. Donc c'était il y a très longtemps. Vous n'étiez peut-être pas né. Il y a eu une immense tempête en décembre 99 et donc la toiture a été endommagée à ce moment-là. Et puis donc il y a eu des infiltrations à l'intérieur de la chapelle. Et donc les activités culturelles qu'il y avait à la chapelle à la fin du XXe siècle se sont arrêtées au tout début des années 2000. Avant que tout s'arrête au début des années 2000, l'activité culturelle qui existait dans la chapelle était une activité de l'ordre d'exposition. Il y avait peut-être eu des concerts il y a vraiment très 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 longtemps, mais surtout des expositions. Je dirais que au cours du XXe siècle, a priori, elle n'a jamais été ouverte, complètement ouverte pour le public. Elle pouvait être vue justement lors de ces expositions, mais elle n'était pas ouverte complètement librement pour le public.
Parlons maintenant de vous. Vous êtes guide conférencière de formation.
Oui.
Comment vous présenteriez la Sorbonne Université en tant que mouvement historique, en tant que lieu de mémoire figée ou en mouvement plutôt ?
Alors, vous avez parlé de la Sorbonne Université.
Oui. Enfin, la Sorbonne, les universités de la Sorbonne.
Pardon. Voilà. Exactement. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire à mes visiteurs, hein, parce que c'est vrai qu'ils font souvent l'amalgame, la Sorbonne, l'université, etc. Oui. Je leur explique qu'aujourd'hui, la Sorbonne, c'est un bâtiment. C'est ce bâtiment. Et c'est aussi, et là je mets des grosses, grosses, grosses guillemets, c'est aussi une marque, hein, que peuvent utiliser les 13 universités qui sont les héritières de l'ancienne Université de Paris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs universités portent le nom de Sorbonne, dont Sorbonne Université, mais il y a vos petits camarades de Panthéon-Sorbonne, ou Sorbonne Nouvelle, ou Sorbonne Paris-Nord. Donc, mais demain, on pourrait avoir d'autres universités portant ce nom de Sorbonne. Alors voilà, aujourd'hui, c'est un bâtiment.
Mais il y a
et
donc,
c'est un esprit.
Oui. Pardon, il y a donc énormément de campus. Là, on peut largement le voir, peut-être même une douzaine. Quel serait alors le parcours idéal pour découvrir la Sorbonne ?
Alors, vous parlez de campus, donc extérieur à la Sorbonne.
Oui.
Moi, je peux vous parler de la Sorbonne, du bâtiment Sorbonne.
Oh non, pardon. Alors, quel serait le parcours idéal pour découvrir la Sorbonne, là où on est actuellement?
Très bien. Alors, actuellement, depuis début 2025, nous proposons, la Chancellerie des Universités de Paris propose des visites guidées du palais académique. Pour aujourd'hui, c'est la seule partie du bâtiment qui puisse être visitée. Ce sont des visites guidées par moi-même. Les groupes peuvent s'inscrire, mais également les visiteurs individuels. Hein. Donc vous, en tant qu'étudiant, par exemple, vous pouvez vous pouvez vous inscrire pour les visites guidées et c'est gratuit justement pour les étudiants de l'enseignement supérieur français.
Nous sommes alors dans le studio de Radio Sorbonne, à côté de l'amphi Richelieu. Quelle importance a joué le cardinal Armand Duplessis dans l'évolution de la Sorbonne ?
Alors, on dit souvent que le cardinal de Richelieu a fait ses études à la Sorbonne, c'est pas vrai. Il a fait ses études dans un autre collège qui, je crois, était le collège de Navarre, mais il a été docteur de la Sorbonne et il en a été le proviseur. Il faut savoir que de la création de la Sorbonne en 1253 jusqu'à la fin du 19e siècle, la Sorbonne est une école de théologie. On y enseigne la théologie. Hein, donc, elle fait partie de la faculté de théologie de l'Université de Paris. Et c'est au moment... je m'éloigne parce que ce n'est pas la question. La question, c'était le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, quand il devient proviseur de la Sorbonne, il décide de financer sur ses fonds personnels la reconstruction des bâtiments de la Sorbonne. Ces bâtiments, pour certains, dataient encore du XIIIe ou XIVe siècle. Donc, c'était des bâtiments construits à différents moments, sans réelle cohérence. Et donc, il va demander à son architecte, Jacques Lemercier, de construire des bâtiments qui, aujourd'hui, si on veut se les représenter, on va dans la cour d'honneur et on imagine les bâtiments qui sont autour de cette cour d'honneur. Donc, ce ne sont pas les bâtiments que vous voyez aujourd'hui, parce que ceux-là sont du XIXe siècle, mais voilà, c'était l'emplacement des bâtiments qui encadrent la cour d'honneur. C'était ça, la Sorbonne de Richelieu. Et au passage, il fait construire la chapelle que nous avons aujourd'hui. Cette chapelle qui était prévue pour être la chapelle de la Sorbonne, hein, qui était une école de théologie. Donc, il fallait une chapelle pour ces professeurs et étudiants qui étaient des religieux. Et l'autre objectif de Richelieu, c'est de faire de cette chapelle son mausolée, le mausolée de sa famille. Donc il y est enterré. Donc le tombeau du cardinal est dans la chapelle. Et après lui, les sept autres ducs de Richelieu vont être également enterrés dans la chapelle.
Vous avez participé à l'organisation des journées du patrimoine à la Sorbonne. À quel point le grand public est-il curieux de visiter notre fac et pourquoi ?
Alors, à quel point, je vais vous donner un chiffre. Cette année, il y a eu plus de 15 000 visiteurs. Donc, c'est le record absolu pour les journées du patrimoine en Sorbonne. L'an dernier, il y a eu quelque chose comme 9 000 visiteurs. Et au plus haut, ça a été 12 000 il y a quelques années. Donc là, 15 000, on explose tous les compteurs. Donc, on était très, très contents. On ne se l'explique pas. Enfin, voilà, moi, j'ai pas d'explication rationnelle. Bon. On a quand même l'idée que, comme on a beaucoup parlé de la chapelle cette année, peut-être que c'est ce qui a un peu attiré davantage les visiteurs. Mais même les 9000 de l'an dernier étaient quand même déjà très, très honorables. Et qu'est-ce qu'on vient visiter dans la Sorbonne ? En fait, il y a une aura. C'est la Sorbonne. Tout le monde connaît ce nom. C'est un nom qui est connu partout dans le monde. Et donc, voilà, je pense que les gens viennent visiter à la fois un monument, mais aussi l'esprit de la Sorbonne. Comme si, en venant, on allait croiser tous les grands auteurs ou les grands scientifiques qui sont passés par la Sorbonne. Je crois que c'est un peu ça que les gens cherchent en venant.
Et alors justement, l'université, est-ce qu'elle aurait vocation à s'ouvrir au grand public ou au contraire à se refermer pour protéger ses savoirs ?
Ah, l'université, bon, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'ouvre. Qu'elle est plutôt dans une démarche d'ouverture. Si on parle de l'université en général, ou des universités, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une démarche d'ouverture.
Et alors pour la Sorbonne, elle seule, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait s'ouvrir hormis les journées du patrimoine?
Donc, elle commence à s'ouvrir puisqu'il y a des visites guidées de proposer déjà donc dans la partie palais académique. Et l'objectif, hein, notamment avec la chapelle, c'est qu'à un moment donné, on puisse proposer également des visites guidées de la chapelle. Donc, c'est pas possible aujourd'hui pour différentes raisons et donc notamment pour les raisons de restauration. Mais l'idée, c'est bien de, à un moment donné, de pouvoir l'ouvrir pour des visites guidées. Oui.
Et alors, on pourrait assister peut-être à des messes dans la chapelle une fois qu'elle serait complètement rénovée ou...
En fait, il n'y a plus d'usage cultuel dans la chapelle depuis 1905. La chapelle, n'est pas une église paroissiale publique. Hein, c'est une église qui fait partie intégrante du bâtiment Sorbonne, hein, donc d'un site universitaire. Et donc, depuis 1905, il n'y a plus d'usage cultuel. Il y a eu des messes, encore une messe annuelle jusque dans les années 1970, donc la messe annuelle à l'occasion de l'anniversaire de la mort du cardinal de Richelieu. Mais voilà, ça fait déjà plus de 50 ans, donc non, il n'y a pas de... C'est pas du tout à l'ordre du jour, non.
Alors j'ai maintenant la dernière question pour vous, c'est lequel personne n'échappe, et encore moins vous, puisque c'est votre spécialité. Que représente la Sorbonne pour vous?
Alors moi, j'ai une vision très... très, très axée sur le patrimoine, donc je vais vous parler de ça. Hein. Pour moi, c'est un site qui est incontournable dans le paysage parisien. Hein, quand on parle de la chapelle, qu'on parle de la tour de l'observatoire, donc sur la rue Saint-Jacques, vraiment ce sont des éléments du paysage parisien que tout le monde connaît. Moi je trouve que le palais académique est quand même un morceau de l'histoire de France, en fait, hein, de patrimoine extrêmement important. Et en venant, par exemple, je me faisais la réflexion en passant en bas dans le hall des amphis, et je me suis dit, ça doit quand même faire quelque chose de faire ses études dans des espaces aussi beaux, peut-être inconfortable quelquefois, mais c'est beau, et moi je reste persuadée qu'on travaille mieux dans un environnement qui est beau, où on se sent bien. Donc c'est ce que je finis par ça.
Mais je vous le confirme, et je pense que nous aussi qui étudions là, moi complètement et les autres aussi partiellement, c'est plus que magnifique, et pouvoir y étudier, c'est une chance.
Je crois.
Et ça fait toute la différence au niveau de la motivation.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup, Maria Mendes, pour cette interview.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes donc chargée de développement des projets culturels en Sorbonne auprès de la chancellerie des universités de Paris.
Super.
Merci. en parlant donc de Sorbonne, on parle donc d'étudiants et on parle alors de chronique des brouilles, évidemment, tout de suite avec Elias.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, à table !
Les jours se raccourcissent, on a envie de se mettre sous un plaid avec un bon petit chocolat chaud. L'automne s'installe et l'on a toujours de bons plans pour vous chouchouter. Aujourd'hui, dans la chronique des brouilles, voici les meilleures adresses pour passer une soirée relaxe à Paris.
Et oui, l'été est maintenant bel et bien fini, il fait froid et le soleil se couche à 19h15. La chaleur est partie, mais pas l'envie de se détendre après une bonne semaine de cours. Qu'elle soit humaine ou thermique, la chaleur est le meilleur remède. Et pour ça, quoi de mieux que le hammam de la Mosquée de Paris? Pour environ 20€ l'entrée, vous vous offrez un voyage express hors du temps. La vapeur, l'eucalyptus, oubliez donc le RERB, vous êtes à Marrakech. Vous pourrez profiter de l'ambiance apaisante du Maghreb tous les soirs jusqu'à 21h. Si vous n'avez qu'une petite heure, vous pouvez foncer au Zen Bar, le premier bar à sieste de France, situé en plein cœur de Paris, à côté de l'Opéra Garnier. Contre une vingtaine d'euros, vous vous faites une petite sieste massante de 30 minutes. C'est le coup de boost parfait, une mini-évasion entre deux bibliothèques. C'est bien connu, les étudiants font tous très attention à leur consommation d'alcool. Donc si vous êtes l'exception qui confirme la règle, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais pas à 9€ le demi. Le secret, c'est de choper les happy hours qui n'en finissent jamais. Première option, au Petit Paris, dans le 10e arrondissement. Pour vous y rendre, le plus simple, métro Strasbourg-Saint-Denis, puis vos petits pieds pour une durée record de 1 minute. Ce bar propose des prix imbattables en happy hour, on m'a même parlé du planteur à 2€. Deuxième option, le Sifax Café, dans le 9e arrondissement cette fois-ci. Situé juste devant le métro Notre-Dame-de-Lorette sur la ligne 12, c'est un spot incontournable. Et il faut le saluer, leur happy hour dure jusqu'à minuit. On est sur de la pinte à 3-4 euros, l'ambiance y est chaleureuse, décontractée, mais parfois un peu bruyante. On y va pour le prix, on y reste pour l'ambiance. Mais après une pyramide de 5 étages de shots la veille, on a peut-être envie d'être un peu plus au calme que de fêter le fait d'être le lendemain. Alors pourquoi pas réfléchir un peu sur ses choix de vie et se cultiver ? Niveau culture, on a de la chance d'être bien servi à Paris, d'autant plus qu'avec votre carte étudiante, ou si vous avez moins de 26 ans, ou les deux, l'accès à la culture devient gratuit. Vous allez apprécier votre vendredi soir, car je commence par vous emmener au Musée des Arts et Métiers, qui est ouvert et gratuit tous les vendredis jusqu'à 21h. Il expose l'histoire des inventions et de l'industrie depuis le 16e siècle. Je vous invite à aller voir sa collection d'objets emblématiques dans plein de domaines, comme les instruments scientifiques, la construction, la communication, l'énergie, la mécanique ou encore les transports. Tant qu'on parle de musée, comment ne pas penser au musée du Louvre ? Départ de la Voie Royale, c'est un lieu mythique de la capitale qui mêle histoire, mythologie, politique et encore bien d'autres. Le Louvre est gratuit tous les vendredis soirs dès 18h où vous pourrez vous enivrer dans ces allées aussi belles qu'intrigantes. Moins de monde, moins de touristes, vous allez avoir l'impression d'avoir la Joconde pour vous tout seul. Alors vous voyez, le stress, la panne sèche, c'est fini. Paris nous offre plein de spots pour passer des soirées aussi calmes que mouvementées. Que vous soyez plutôt chocolat chaud ou maître de shot, il vous suffit de suivre Cours d'honneur un mercredi sur deux, rendez-vous sur radiosorbonneuniversité.com, pour être au courant des meilleures adresses.
Merci beaucoup Elias, on a très hâte d'aller boire un coup ou d'aller au musée après ces bonnes recommandations. On reste sur les dernières sorties avec le nouvel album de Kali Yuki, je ne sais pas, qui date du 11 septembre. Petit clin d'œil aux tours jumelles à qui elle adresse ce message, Cry About It, tout de suite sur Cours d'honneur. Sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Cry About It de Kali Yukis, on m'a dit. Étant une icône de la mode, elle s'inscrit d'ailleurs totalement dans notre prochaine chronique, la chronique pavée avec Ellie. Mais ce n'est pas du stylisme des chanteuses qu'elle va parler.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
La Fashion Week vient de se terminer, mais on a décidé de prolonger un peu la magie. C'est pourquoi nous allons à la rencontre inattendue entre couture et culture, entre fil et philosophie. Ce soir, c'est Ellie qui nous raconte ce moment où Dior a prouvé que la mode pouvait aussi penser. Le rapport avec la Sorbonne, me diriez-vous ? Ça, c'est à Ellie de vous l'expliquer.
La Fashion Week vient de se finir, mais vous savez quoi ? Personnellement, je trouve que ça passe toujours trop vite et j'en veux encore, et rien que pour ce genre de moment.
Mais c'est quoi l'autre en bleu derrière là ?
Lady in blue !
Lady in blue, move !
Si vous savez, vous savez, on se sait. Alors quoi de mieux que de se replonger 70 ans en arrière dans ce qui est encore aujourd'hui le seul et l'unique défilé de la Sorbonne ? Alors peut-être pour être tout à fait exact, ce n'était pas le défilé de la Sorbonne elle-même, mais plutôt celui de Christian Dior à la Sorbonne. En effet, le 3 août 1955, dans le grand et beau amphithéâtre de la Sorbonne, la mode est entrée à l'université. Ce jour-là, Christian Dior, couturier déjà mondialement célèbre, est invité à donner une conférence. Oui, Dior, le père du New Look, celui qui a redonné du volume, de la grâce et de l'audace à la femme d'après-guerre.
L'avenue Montaigne, naguère si paisible, est aujourd'hui sillonnée de voitures de toute provenance qui déposent sous ses ombrages les élégantes du monde entier. Elles viennent confier le soin de les parer à celui en qui elles ont trouvé leur allié le plus précieux. L'homme dont le nom, pour elles, évoque tous les prestiges de la haute couture française, Christian Dior.
tout ça face à un public d'étudiants, d'intellectuels et de journalistes. L'image peut paraître insolite dans ce temple du savoir, habitué aux débats philosophiques et aux leçons d'histoire, c'est la haute couture qui prend la parole. Mais Dior, lui, ne vient pas parler chiffon, il vient défendre une idée, celle que la mode est un art au même titre que la peinture, la musique ou la littérature. Dior raconte son parcours. Avant d'être couturier, il voulait être architecte, puis galeriste. Il part de la ligne d'un vêtement comme d'un dessin, d'une robe comme d'une sculpture. Il explique que chaque création n'est un dialogue entre le rêve et la réalité du corps féminin. Il confie aussi son doute sur cette timidité qu'on ne soupçonnerait pas derrière son allure impeccable. Il dit, je cite, « Je ne suis qu'un artisan du rêve », une phrase simple mais qui résume tout Dior, la rigueur du travail et la poésie du geste. Ce jour-là, la Sorbonne, Dior, élève la couture au rang de pensée. Il fait entrer le fil et l'aiguille dans le domaine du concept. La robe devient discours, le tissu devient langage et les étudiants l'écoutent comme on écoute un philosophe, captivé pendant que des silhouettes les plus emblématiques défilent sous leurs yeux. Mais cette conférence est aussi un moment charnière. Nous sommes en 1955, la France se relève encore des blessures de la guerre et la mode incarne ce retour à la vie, à la beauté, à l'envie. Dior parle d'élégance comme d'une résistance à la vulgarité, d'une forme de morale esthétique.
Lorsqu'au printemps de 1947, Christian Dior lança la mode Corolle, baptisé depuis New Look par l'Amérique, on parla de coup de foudre, de coup d'État, de révolution. Révolution ? Non. Simple retour à la norme, au bon sens. Désir de voir les femmes faire peau neuve, retrouver une silhouette vraiment féminine.
Il n'emploie pas de grands mots politiques, mais tout est là, la dignité, la reconstruction, la foi en la grâce. Alors oui, en ce jour d'août 1955, l'élégance a pris place sur les bancs de la Sorbonne, et ce n'était pas un caprice de couturier, mais une véritable déclaration culturelle. 70 ans plus tard, cette conférence reste une preuve que la mode, loin d'être frivole, pense, s'inspire et inspire à son tour. Christian Dior est l'un des premiers à l'avoir compris. La mode, c'est aussi une manière de dire le monde.
Merci beaucoup, Élie, pour cette chronique pavée qui nous donne envie, finalement, de lancer notre marque et d'être extrêmement connue dans la fashion. C'est maintenant la fin du premier épisode de la saison. Cours d'honneur, épisode 2, saison 5, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à nos invités, interviewés par Jade et moi-même. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci à toute l'équipe, Élie.
Merci à toi, merci à tout le monde et à tous nos éditeurs et auditrices de nous écouter. Et j'espère tous voir en Dior d'ici peu.
Oui, si on peut. Si tu nous les payes, il n'y a pas de problème. Merci à Elias.
Et merci à vous et merci aux invités qui ne sont malheureusement plus dans le studio, mais qui m'ont sincèrement touché.
Oui.
Et j'ai hâte d'être là, la semaine prochaine, dans deux semaines.
Nous aussi, merci à Jade.
Merci aux éditeurs, merci à vous, merci à Thomas. Et on se retrouve pour Halloween.
Yes. Merci à Lavinia.
Bah oui, c'est vrai, ça va être Halloween. Bah du coup, merci à vous tous. C'était super. Et puis Élie, franchement, Nancy Sinatra, c'était génial. Franchement, très très bon choix. J'adore.
Et merci à Thomas, le muet de cette émission.
Ouh.
Yes. Merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat. N'oubliez pas que Cours d'honneur passe en mode bimensuel, un épisode toutes les deux semaines. Et merci surtout à vous pour être restés à travers notre amour pour la mode, notre haine pour le système, notre ambiguïté pour les soirées en terrasse sous 10 degrés. N'oubliez pas, soyez vous-même, soyez fou même, restez curieux, restez avec nous, on vous aime, bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié ? Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter ?
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement ? Est-ce que je vais pouvoir travailler ?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.